Que Dieu soit béni. Et puis on a aussi un seul livre, c'est la parole de Dieu qu'on va ouvrir dès à présent. Et on veut encore se laisser instruire pour, eh bien, pour toujours avancer avec le Seigneur, comprendre ce qu'il a à nous dire et là où il veut, eh bien, nous donner à arriver. Alors pour ce faire, en introduction, je vous propose de prendre Colossiens chapitre 3 et les deux premiers versets. Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2. Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2. Est-ce que tout le monde a trouvé ? Je vois les Bibles, c'est très très bon signe. Le bruit de feuilles, voilà, qui ventile un petit peu l'atmosphère. Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux deux verbes, on va dire deux verbes principaux que l'on retrouve dans ces deux versets. Il y a déjà le verbe « chercher », et puis aussi au verset 2, eh bien, le verbe affectionner. Et c'est quelque part, ces deux verbes riment ensemble. Chercher et affectionner. Qu'il est bien facile d'arriver à chercher ce que l'on affectionne particulièrement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de passer des heures et des heures dans les bois juste pour aller chercher eh bien, des champignons, tout simplement parce qu'ils raffolent les champignons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a, ils vont eh bien, peut-être sous la salle, dans la salle à manger, répandre tout le jeu de Pulse là, avec ses mille et une pièces. Ils vont passer des heures à pouvoir rechercher, à reconstituer tout le puzzle avec ses milliers de pièces, tout simplement par passion. C'est vrai ou pas? Mais là, l'apôtre Paul, eh bien, au travers de ce verset, ces deux versets qu'on vient de lire, nous invite à pouvoir rechercher les choses d'en haut. Et pas les chercher n'importe comment, les chercher avec ardeur, les chercher avec passion, les chercher avec affection. Comme eh bien, on l'a lu, le verbe affection vient d'un mot grec, phronéo, et qui veut aussi se traduire par la chose suivante, se concentrer sur, diriger son esprit sur. Et l'apôtre Paul, par ces deux versets, nous invite à pouvoir diriger, entre autres, notre esprit, nous centrer sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors aussi, il faudrait apporter une autre explication. Que veut dire les choses d'en haut? Tiens, selon vous, quelles sont, que veut dire les choses d'en haut? Les choses célestes? Les choses qui viennent de Dieu? Oui. Les affaires de Dieu? Ce sont toutes les grâces? Ce sont toutes les bénédictions éternelles que nous avons en Jésus-Christ, entre autres le salut, quoi d'autre, le pardon, la paix, la joie et plein d'autres choses, la vie éternelle. Ce sont aussi les trésors de gloire qui nous attendent dans le ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu. Ce sont les choses, oui, eh bien, qui nous parlent du royaume de Dieu et sa justice. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu demeurera éternellement et on la retrouvera dans le ciel de gloire. Aussi, j'aimerais avec vous, peut-être ce matin, répondre à deux questions très simples. Moi, j'aime bien la simplicité. Souvent, on a voulu compliquer les choses et je trouve ça dommage. Quand Jésus venait devant les foules, il arrivait même à se faire comprendre aux enfants. Et on a besoin d'être simple avec la parole de Dieu. Car ce que Dieu nous demande est simple. Juste deux questions très simples. Premièrement, au vu de ces deux versets que je vais relire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. De ces deux versets, je nous pose deux questions. La première, pourquoi chercher les choses d'en haut? Il n'y a pas plus simple. Hein? Et puis comme il y a un deuxième verset, eh bien, on va en tirer une autre question. Comment nous affectionner aux choses d'en haut? Est-ce que ces deux questions vous conviennent? Est-ce que vous voulez qu'on y réponde? Vous auriez dit non, on aurait répondu quand même. Pourquoi chercher les choses d'en haut? Pourquoi chercher les choses d'en haut? Juste trois réponses parmi tant d'autres, vous l'avez compris. Premièrement, parce que ce monde terrestre est appelé à disparaître. Il ne faut pas faire de longues études pour comprendre que ce monde, il est en train de dépérir, de se détruire à petit feu, et en tout point. Ce sont les scientifiques, ce sont les chercheurs, ce sont même les politiciens qui s'en mêlent, et tous, à leur tour, tirent la sonnette d'alarme pour nous rappeler que les choses se désagrègent, à commencer par la nature. Nature qui est blessée, qui est bafouée par la pollution et tellement d'autres choses. On voit toutes sortes de dérèglements. Il est question, et ce sont les scientifiques qui en parlent, que maintenant, il faut qu'on s'attende même à des cyclones ici en France. Des choses qui ne se voyaient pas auparavant. On voit que les choses, les fondements même de ce monde terrestre se dérèglent. Et je parle de la nature, mais j'aurais pu parler aussi de la morale. J'aurais pu parler des mœurs. Et ça rejoint ce que Jésus a dit, le péché ne cesse de s'accroître. Et nous ne sommes pas surpris par ces choses, parce que la Bible aussi nous avertit. La Bible nous avertit que ce monde d'alors est réservé pour le feu. Est-ce que vous le saviez ça? Si une première fois Dieu a exercé un jugement, il a submergé la terre par un déluge sans pareil, d'ailleurs il n'y en a eu qu'un seul déluge. La Bible nous dit, et c'est clair, et c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 7, la deuxième fois, la terre sera cette fois-ci détruite par le feu. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et Jésus lui-même a dit aussi autre part dans Matthieu chapitre 24, verset 35, un passage qu'on peut aussi lire, Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais par contre, mais mes paroles ne passeront point. » Premier point, pourquoi chercher les choses en haut? Parce que si nous misons sur cette terre, frères et sœurs, nous faisons fausse route. Cette terre est destinée à la destruction. Une autre réponse. Pourquoi donc chercher les choses en haut? Parce que notre demeure finale, elle est là-haut. Elle n'est pas en bas, elle est là-haut. Et c'est pour ça qu'à juste titre, l'apôtre Paul va nous appeler étrangers, voyageurs sur cette terre. Imaginez-vous avec spirituellement vos bagages. Parce que nous sommes en voyage. Nous sommes en route vers notre demeure céleste. Et c'est ce que aussi rappelle l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Philippe. Philippiens chapitre 3 et le verset 20, on peut le lire également. Philippiens chapitre 3 et le verset 20, qui connaît ce passage? Philippiens chapitre 3, les versets 20 et 21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. » Notre cité à nous est dans les cieux, frères et sœurs. J'ai une maison là-haut. Et vous pouvez en dire autant. Alors est-ce qu'on sera à côté? Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Ce qui est important, c'est d'être là-haut. Et d'éternité en éternité, dans la présence de notre Seigneur, Jésus-Christ. Nous sommes que de passage sur la terre, juste le temps d'une vie. Vous savez, notre vie sur terre est comme semblable à une salle d'attente qui nous permet par la suite de nous introduire dans l'éternité. Encore faut-il savoir où on va passer l'éternité. Mais la terre, c'est juste un passage, c'est juste le temps d'une vie. Et vous avez vu comment ça passe vite? Où sont passés mes 20 ans? Moi, j'en perds quand j'étais ado, j'étais pressé d'avoir 20 ans. Maintenant, je suis en train de freiner, mais j'ai plus de frein à main. Et les cheveux blancs me rattrapent, plein de choses. Mais je m'en vais vers la patrie céleste, avec vous, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, ne perdons pas de vue ce que Jésus a promis à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a promis à ses disciples? Jean chapitre 14, les versets 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Alléluia, avec moi. Alléluia, afin que là où je suis, vous y soyez également, que Dieu soit béni. C'est ça notre promesse. Et quand on a, on sert particulièrement cette promesse dans notre cœur, frères et sœurs, on relativise sur pas mal de choses dans ce bas monde. On se laisse plus emporter par toutes sortes d'inquiétudes. On se laisse plus entraîner par l'esprit de ce monde, avec toutes ses ambitions, avec toutes ses valeurs. Nos valeurs, elles sont puisées dans la parole de Dieu. Nos valeurs nous invitent à regarder vers là-haut, comme ça a été dit tout à l'heure, au travers d'un don spirituel. Arrête de regarder en bas, regarde en haut. Regarde en haut. Lève la tête, mon frère, ma sœur. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Recherche les choses qui sont en haut. Rappelons-nous que la terre n'est pas notre véritable chez nous. Jésus, d'ailleurs, lui-même l'a dit quand il a rencontré les Juifs et les pharisiens qui essayaient tour à tour, de le contrer. Il va dire dans Jean chapitre 8, verset 23, par exemple, il va dire quelque chose d'extraordinaire. « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Et j'analyse ces paroles, je me dis, mais est-ce que le chrétien, le véritable chrétien, il n'est pas aussi en droit de dire la même chose? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont d'en bas. C'est pour ça qu'ils s'attachent aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes d'en haut. Nous sommes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Ils sont de ce monde, mais nous, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, parce qu'une maison merveilleuse nous est préparée là-haut. Si nous acceptons ces choses, si nous les vivons réellement, alors nous allons recentrer même toute notre vie sur ce qui est essentiel, sur ce qui est prioritaire, c'est-à-dire la personne de Jésus. Être fin prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il ne faudrait pas que nos rassemblements nous cautérisent, nous empêchent d'être stimulés par la parole de Dieu. Mais il faut que cette parole puisse nous secouer à l'intérieur et nous motiver à être plus que jamais fin prêt, parce que rien n'impur, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Cherchez les choses d'en haut. C'est tellement important. Notre maison, notre vraie patrie, se trouve au ciel où se trouve Jésus-Christ qui est assis à la droite de la majesté divine. Troisième réponse pour vous, pour répondre à cette question, pourquoi chercher les choses d'en haut? On a vu parce que ce monde terrestre est appelé à être détruit. Et puis on a vu aussi parce que notre demeure finale se trouve là-haut dans le ciel de gloire. Mais on peut aussi répondre parce qu'un trésor ineffable nous attend là-haut. Il y a des choses ineffables qui nous attendent dans le ciel que le Seigneur a préparé pour nous, dans le paradis que Dieu a préparé pour nous. C'est pourquoi Paul a eu à cœur de prier Dieu pour les chrétiens d'une certaine église, l'église d'Éphèse. Et on peut lire ensemble ce que Paul a exprimé dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 16 à 19. Il va dire la chose suivante. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, mais aussi un esprit de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, premièrement, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Regardez on revient au verset 18. Paul va parler de la richesse, de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous voyez le jeu de mots ? La richesse, de la gloire, de son héritage. Qui ici peut expliquer ce qui nous attend là-haut dans le ciel de gloire ? Même Jésus, même l'apôtre Paul, excusez-moi, qui a même visité, a été ravi jusqu'au troisième ciel, va-t-il dire, va dire lui-même qu'il a vu des choses qu'il ne peut répéter. Tellement c'était glorieux, tellement c'était beau. Et on a comme cela, peut-être dans notre entourage, des personnes qui ont vécu certaines choses dans l'au-delà. Et c'est avec difficulté qu'ils peuvent expliquer ce qu'ils ont pu ressentir, ce qu'ils ont pu vivre, parce que c'est des choses glorieuses qui nous attendent là-haut, frères et sœurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul, avec une grande assurance, pourra dire entre autres, dans Romains chapitre 8 et le verset 18, regardez ce qu'il est écrit, Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Qu'est-ce que les difficultés qu'on peut rencontrer? Et c'est là encore qu'il faut relativiser. Qu'est-ce que les épreuves, aussi importantes, aussi difficiles, bien soient-elles, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des moments très difficiles dans la vie, des épreuves qui sont très difficiles à traverser. Mais lui qui a visité le ciel va dire, j'estime que les souffrances du temps présent, liées à notre foi ou pas, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand je vois la nature, moi j'aime beaucoup la nature, quand je vois la nature qui m'entoure et de quelle manière le Seigneur a si bien fait les choses, je dis mais qu'est-ce qui va nous attendre là-haut? Mais des choses extraordinaires, des choses qui vont nous transcender, des choses qui vont, eh bien on aura, oui, certainement besoin de toute l'éternité, eh bien pour réaliser, eh bien combien notre Dieu il est grand, combien il est merveilleux. Une petite anecdote que j'ai relevée pour vous, que je vais vous lire. Un jour, un pasteur fut invité à dîner chez un homme riche. Et ce dernier le fit monter sur les hauteurs de son immense propriété. Et tout en lui montrant le côté est de son domaine, il dit au pasteur, « Vous voyez les puits de pétrole, aussi loin que vous pouvez voir, ils sont à moi. 25 ans passés, je n'avais rien. » Puis il lui fit voir du côté sud, derrière son dos, « Vous voyez les troupeaux sur mon ranch, 25 ans passés, je n'avais rien. » Ensuite, du côté ouest, vous voyez les champs de céréales, 25 ans passés, je n'avais rien. Et finalement, du côté nord, en face de lui et du pasteur, vous voyez les belles forêts, 25 ans passés, je n'avais rien. Et tout fier de lui, l'homme riche s'attendait à ce que le pasteur réagisse. Et il a réagi, le pasteur. Et le pasteur dit à cet homme, tout en pointant son doigt en direction du ciel, « Et par là-haut, combien possédez-vous ?» L'histoire ne raconte pas la réponse, ne nous rapporte pas la réponse de cet homme riche. Peut-être n'avait-il rien à répondre à cette question bien pertinente de la part du pasteur. Et il faut qu'on sache répondre à cela. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit autre part dans Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20, « Ne cherchez pas, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. » Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors là aussi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu nous accorde ses grâces, mais nous ne nous y attachons pas comme nous devrions nous attacher au Seigneur Jésus. Voilà ce qui est important. Nous attacher aux choses d'en haut parce que c'est ça les vraies valeurs. Ce n'est pas tant ce qui est visible qui est important, c'est surtout ce qui est invisible et qui est encore à venir et que nos yeux vont voir, nos yeux spirituels, parce que nous serons semblables au Seigneur Jésus. On va s'en arrêter là pour cette première question. Pourquoi chercher les choses d'en haut? On a déjà donné la trois réponses, on aurait pu rallonger la liste. Mais je vais passer à la deuxième question, comment nous affectionner aux choses d'en haut? On l'a vu en introduction, il est tellement plus facile de chercher ce que nous affectionnons d'une manière particulière. D'où la deuxième question, comment nous affectionner aux choses d'en haut? Eh bien, je vais m'affectionner aux choses d'en haut, premièrement en faisant mourir ma chair avec ses passions. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen, mais je crois, Joël, t'as pas parlé assez fort, je vais la refaire. Comment nous affectionner aux choses d'en haut en faisant mourir notre chair avec ses passions? Ah, ça fait plaisir. Voici donc ce qui peut nous empêcher de nous élever vers les choses d'en haut. Lorsque notre chair, avec ses passions, avec ses désirs, avec ses convoitises, lorsque ce vieil homme, cette vieille femme, n'est pas constamment, continuellement, quotidiennement mise à mort parce que nous avons été crucifiés avec Christ, pour en retour être ressuscités avec lui. C'est pour cela qu'on l'a lu tout à l'heure, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Donc sous-entendu, si donc vous êtes mort et ressuscité avec Christ, alors immanquablement, vous allez chercher les choses d'en haut. On a besoin de faire mourir ces choses. Et c'est le travail de sanctification. Je ne négocierai pas la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et on a besoin de parler de sanctification. On aime la sanctification. Amen ou pas amen? On aime la sainteté. Certains courent après la prospérité. Mais la vraie prospérité, elle nous sera accordée, eh bien, et ce sera une prospérité spirituelle, elle nous sera accordée lorsqu'on vivra la sanctification. Parce que la sainteté convient à la maison de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10, toujours dans le même passage qu'on a lu. Alors il faut juste regarder quelques versets plus bas. Comment nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ? Comment nous attacher aux choses d'en haut? On a la réponse, Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quoi, par exemple? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, excusez-moi. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Faites donc mourir. Comment je vais chercher les choses en haut? Comment vais-je m'affectionner aux choses en haut si ce n'est en me dépouillant? Si ce n'est en faisant mourir? Faites donc mourir l'impudicité. Juste ce petit témoignage. Et vous allez comprendre que je ne vais pas donner de nom, bien sûr. Mais une sœur de l'église est venue me voir dernièrement et m'a dit « Mais Joël, j'ai mis ma vie en règle. Je vivais en concubinage avec quelqu'un et je sais que ce n'était pas la gloire de Dieu. J'ai mis ma vie en règle. C'est réglé. » Pour moi, ça vaut plus que peut-être des prédications, des chants, d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui va attirer le regard du Seigneur. C'est ça qui va attirer la présence du Saint-Esprit lorsqu'on se mettra à obéir à ce que Dieu nous demande. Car nous savons ce que Dieu nous demande. Et ce qu'il attend, c'est avant tout de l'obéissance de notre part. Faites donc mourir. Il n'a pas dit chasser les démons d'impudicité, les démons d'impureté, quoique il y en a. Mais il s'adresse à des chrétiens qui n'ont pas pleinement laissé leur vieil homme être crucifié sur la croix. C'est notre part. Faites donc mourir. Plus bas, il est dit renoncez. Ce n'est pas votre conjoint qui va renoncer, c'est vous qui devez renoncer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque on se dispose, finalement on est sincère avec Dieu, Dieu en retour, par sa grâce, et avec l'assistance du Saint-Esprit, on l'a chanté ce matin, il vient, il prend le relais, et il nous aide à mettre dehors de nos vies tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, afin que rien ni personne ne puisse être comme des plombs qui nous empêchent de nous élever vers les choses d'en haut. C'est le péché qui nous attire vers le bas. C'est le péché qui nous retient à cette terre. Mais on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous libérer, nous affranchir de toutes ces choses pour monter sur les hauteurs, comme on l'a entendu, au travers du don spirituel. Comment nous affectionner aux choses d'en haut? En faisant mourir notre chair avec ses passions, mais aussi en se débarrassant des choses inutiles de la vie terrestre. Amen ou pas amen? 2 Timothée chapitre 2, verset 4. On en a bientôt terminé. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qui vous a enrôlé? Joël? Non. Jésus. Ne me suivez jamais. Suivez Jésus. Et tant que je suivrai le Seigneur Jésus, il n'y a pas de problème, écoutez-moi. Mais si à un moment donné je fais fausse route et je dévie de cette parole, inquiétez-vous et commencez déjà. Il faut suivre Jésus. Moi-même, je suis Jésus. Je veux choisir de suivre. C'est lui qui m'a enrôlé. C'est l'Éternel des armées. C'est celui qui combat pour moi. Celui qui m'ouvre la marche. C'est celui, alléluia, qui me demande de le suivre. Mais celui qui me demande de le suivre, il me dit aussi, il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parce que les affaires que Dieu veut nous communiquer, elles concernent le royaume des cieux et ça concerne les choses d'en haut. Lors de mon service militaire, quand on faisait des sorties, il était question de préparer notre paquetage, c'est-à-dire notre sac à dos. Et il y avait une liste bien définie de ce qu'on devait mettre dans le sac à dos. Et il y avait des petits malins qui glissaient dans le petit sac à dos, dans le paquetage, des choses qui étaient inutiles, des choses vaines, des choses plutôt encombrantes. Et puis il arrivait que quelquefois, il y avait des inspections de dernière minute. Et ces inspections dévoilaient un petit peu les quelques rebelles qui étaient là. Ah, ils passaient un mauvais quart d'heure. Hein. Un mauvais quart d'heure. Et je fais un parallèle. Dans notre vie chrétienne, quelquefois, on s'embarrasse de choses qui sont vraiment inutiles. Il dit, il n'est pas le soldat qui s'embarrasse. Et le verbe embarrasser vient du grec impléko. Et implico se traduit par les verbes impliquer, enlacer, plus profond encore, empêtrer. Et il y a des gens qui sont engagés dans toutes sortes d'affaires politico-socio-culturelles de ce bas monde, au point que, eh bien, ils n'ont plus de temps ni pour chercher les choses d'en haut, ni pour s'affectionner aux choses d'en haut. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et là aussi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il peut se faire que, eh bien, on soit impliqué dans la vie terrestre, et quelquefois même c'est des directions du Seigneur, pour que dans le milieu là où on est, on soit de véritables témoins. Vous l'avez compris, cela. Mais je ne parle pas de ça. Je pense qu'à un moment donné, on doit s'asseoir et remettre notre planning entre les mains du Seigneur et dire, mais Seigneur, je veux avant tout m'occuper des affaires, alléluia, qui te concernent, comme un peu le Seigneur Jésus qui, à l'âge d'environ 12 ans, a rappelé à sa mère adoptive Marie, mais ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Autrement dit, des affaires d'en haut. Et quel honneur lorsque nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Quel honneur quand on s'embarrasse, oui, des affaires qui viennent d'en haut, quand on s'implique, quand on s'enlace, quand on permet même de s'empêtrer dans les choses, alléluia, qui viennent du ciel, parce que ce sont les vraies choses. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen ou pas amen ? Je peux faire beaucoup de choses, mais je suis aussi en droit de m'asseoir et dire, mais est-ce que ça c'est profitable ? Est-ce que c'est profitable pour le salut des âmes ? Est-ce que c'est profitable pour ma famille ? Est-ce que c'est profitable bien pour le royaume des cieux ? Est-ce que c'est profitable pour le Seigneur ? Je me rends compte que toute notre vie est une question de priorité. Et nos priorités sont fonction de nos affections. Ce que j'aime, je vais y mettre une priorité et je vais après prendre beaucoup de temps de mon existence pour m'y adonner. Et si j'aime Jésus, plus que toute autre chose, il aura la priorité sur toutes les autres choses de ma vie. Est-ce que nous aimons Jésus ce matin ? Est-ce que nous voudrions davantage nous affectionner aux choses d'en haut ? Ce verset est venu à plusieurs reprises sur plusieurs jours. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et je voudrais terminer. Comment nous affectionner aux choses d'en haut ? Bien sûr, en faisant mourir notre chair et ses passions. On vient de le voir en se débarrassant des choses inutiles de la vie terrestre. Mais bien évidemment, comment nous affectionner aux choses d'en haut ? Eh bien, en s'attachant à Jésus, qui est assis à la droite du Père. En recherchant au quotidien sa compagnie. En décidant de vivre nos journées avec lui. S'attacher à Jésus, c'est décider de pouvoir veiller chaque jour à entretenir avec lui une relation vivante et profonde. Je suis toujours émerveilleux quand je lis ce qu'a déclaré ce fameux chantre. Vous le connaissez, c'est Asaph, psaume chapitre 73. Vous connaissez tous ce passage, obligé. Qui ne connaît pas ce passage ? Levez la main. Psaume chapitre 73, versets 25-26. Ah, vous voyez, tout le monde connaît. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Vous avez vu ces paroles ? Un homme qui ne connaissait pas encore la vie de l'Esprit, un homme qui ne connaissait pas encore pleinement ce que nous avons connu avec la nouvelle alliance, avec la venue de Jésus. Mais regardez l'attachement qu'il avait au plus profond de son cœur pour la personne, alléluia, de Dieu. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, dans mon quotidien, dans ma vie de chaque jour, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Autrement dit, face à une épreuve, face à une difficulté où il viendrait même à perdre sa chair et même son cœur, il dira, parce qu'il a une foi inébranlable, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Oh, combien nous avons besoin de calquer cette déclaration. C'est des paroles qui ne peuvent que réjouir le cœur de notre Père céleste. C'est une magnifique déclaration que nous devrions nous approprier personnellement pour notre propre vie chrétienne. En tout cas, voilà un homme qui a pris la résolution. Oui, une ferme résolution de s'attacher à Dieu et qui ne veut pas se laisser distraire, voire même se déstabiliser par les adversités ou les inquiétudes de la vie terrestre. Notre attachement à Christ va produire quelque chose. On revient dans Colossiens chapitre 3. Lorsqu'on va regarder vers les choses d'en haut, lorsqu'on va faire mourir notre chair avec ses passions, lorsqu'on va se débarrasser des choses inutiles de la vie terrestre, mais lorsqu'on va s'attacher à Jésus-Christ, eh bien cela va faire naître en nous le désir profond de nous revêtir de la nature, des sentiments, du caractère, mais aussi des pensées du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi je le dis? Parce qu'un peu plus bas, toujours dans le chapitre 3, parce que finalement les réponses à mes questions se retrouvent dans ce même chapitre. Colossiens chapitre 3 et le verset 12, regardez ce qu'il est dit. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Amen. » Quand je vais m'attacher à Jésus, alors je vais désirer le ressembler en tout point. Le ressembler dans son amour, le ressembler dans la joie, le ressembler dans sa paix, dans ce qu'il dégage, dans sa nature, dans ses capacités, dans tout. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, je termine par ce que j'ai commencé. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Par cette exhortation, l'apôtre Paul désire nous faire comprendre que le meilleur ne se trouve pas dans l'affection à bien des choses éphémères de ce bas monde, mais bel et bien dans la recherche et l'affection des choses éternelles et qui se trouvent en haut. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que Dieu le Père nous accorde toute sa grâce afin que nous puissions avoir toujours les yeux centrés sur la personne de Jésus. Que Dieu nous accorde toujours sa grâce pour que nous puissions nous attacher à notre Sauveur Jésus-Christ qui n'a pas hésité un seul instant à pouvoir donner sa vie sur ce bois infâme pour le pardon de nos péchés. Que sa grâce puisse nous aider à bien toujours avoir les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ qui est bientôt à la porte et qui reviendra bientôt nous chercher. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est merveilleuse. Elle nous rappelle à l'ordre. Elle nous reprend, elle nous corrige, elle nous exhorte. Elle nous fortifie. Elle nous aide à aller plus loin. Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur Père, confus lorsque tu reviendras. C'est pour cela que tu nous parles ainsi. Et tu nous invites, à chacun d'entre nous, à pouvoir rechercher les choses d'en haut. Et à nous affectionner aux choses d'en haut. Donne-nous à nous occuper, Seigneur Père, mon Dieu, de ce qu'est notre héritage. De ce poids de gloire que tu as en réserve pour ceux et celles qui seront persévérés jusqu'au bout. Donne-nous à nous occuper de ton royaume, du salut des âmes. Donne-nous à nous occuper, Seigneur Père, des choses éternelles et nous éloigner des choses futiles et vaines, Seigneur. Donne-nous à reconsidérer nos plannings. Donne-nous à reconsidérer le temps, Seigneur Père, mon Dieu, que tu nous as donné, Seigneur, afin que nous ne soyons pas considérés comme des voleurs spirituels devant toi, mais que nous te redonnions tout ce que tu nous accordes, parce que tout est grâce. Tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur Père, donne-nous à réaliser ces choses. Aide-nous à faire mourir, Seigneur Père, comme Seigneur cette sœur qui a choisi de mettre en pratique ta parole et de débarrasser sa vie de toute forme d'impudicité. Seigneur, je te prie, viens sanctifier encore ton Église ce matin. Viens la purifier au nom de Jésus-Christ. Et ce qui ne vient pas de toi, ce qui dérange, puisse sortir encore de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Mais que la sainteté de Seigneur Père, mon Dieu, de ta personne, puisse régner encore en ces lieux. et toutes les fois où tes enfants se rassemblent, qui est, mon Dieu, l'odeur de ta sainteté, au nom de Jésus-Christ, nous refusons encore toute œuvre démoniaque, nous refusons encore, Seigneur, toute œuvre ténébreuse dans les familles, dans les foyers, dans les cœurs, au nom de Jésus. Mais Seigneur, chaque jour, nous voudrions marcher de sanctification en sanctification, Seigneur, afin que, Seigneur, cette église soit fin prête lorsque tu reviendras. Seigneur, Père, mon Dieu, tu veux que nous soyons tous sauvés, c'est ton désir, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, à toi toute la gloire, sois béni et sois glorifié. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.